France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cette semaine, nous allons naviguer entre des initiatives qui sont implantées dans le département du Val-d'Oise, où on rejoindra Nicolas Stoufflet tout à l'heure pour le jeu à Sarcelles, et puis d'autres qui ont germé dans d'autres territoires. Celle qui ouvre cette édition est exemplaire et remarquable. Il s'agit de la cravate solidaire qui habille et prépare les demandeurs d'emploi à des entretiens d'embauche. Nous irons ensuite en Isère pour présenter avec Stéphane Bonnet la revue trimestrielle Abeilles en liberté, qui milite en faveur d'une biodiversité ordinaire et donc à la portée de tous.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Pascal Lermechin, bonjour.
Bonjour Philippe, enchanté.
Enchanté aussi, ravi de vous avoir en ligne pour le courrier qui nous a incité à vous appeler pour cause. On en avait déjà parler ou évoquer son existence. J'adore d'abord le nom, la cravate solidaire. Elle dit tout, cette association qui, depuis 2012, aide les personnes à faciliter la démarche vers un employeur grâce aux dons de vêtements professionnels et puis aussi de conseils et de coaching. Alors, c'est né tout bêtement, trois étudiants du côté de la Défense.
C'est ça, tout à fait. C'est un concept tout simple. C'est Yann, Nicolas et Jack qui ont trouvé cette idée. Donc, ils se sont dit, effectivement, qu'il y avait besoin d'aider des gens, qu'on avait tous des tenues, des tailleurs, des robes dans ces placards, et que certaines personnes qui passaient des entretiens en avaient besoin. Donc, c'était une idée toute simple, et qui était vraiment novatrice, et qui s'est développée. Ça fait maintenant presque 10 ans, puisque l'année prochaine, la cravate solidaire va fêter ses 10 ans, et on a un développement qui est absolument exceptionnel, avec beaucoup de gens motivés à l'intérieur de la cravate.
Ouais. Voilà. Et donc maintenant, vous avez un bus qui circule, entre autres, dans le Val-d'Oise ?
Tout à fait. Donc, on a un bus qui s'appelle la Cravate Solidaire Mobile, ouais. Hein, qui est issu du contrat Impact Social, qui a été financé par des mutuelles, et qui tourne dans le Val-d'Oise et qui dans les Yvelines aussi, et qui permet d'aller à la rencontre des gens directement dans les structures d'économie sociale. Parce que des fois, on se rend compte que le prix d'un ticket de métro, d'un train, c'est un peu compliqué pour certains et qu'ils ne pouvaient pas venir dans nos locaux sur Paris. Donc, on va chez eux directement et c'est une vraie réussite.
Il y a des associations qui font un équivalent dans l'apparence physique pour redonner confiance à des femmes qui sont, comme on dit, éloignées de l'emploi et qui cherchent un emploi et qui ont parfois un peu honte de leur apparence. C'est le cas aussi avec les personnes que vous côtoyez.
Oui, tout à fait. C'est important. On a beaucoup de femmes dans les bénéficiaires de la cravate. On en a à 55%. Donc c'est une population qu'on a en grande majorité. Et il y a besoin d'accompagnement spécifique. Là, on a mis en place dans des locaux à Opéra un local dédié aux femmes. Donc avec des ateliers socio-esthétiques pour leur redonner confiance, leur redonner le goût du maquillage, de se coiffer. Et puis c'est important pour avoir des entretiens, de se sentir belle, de se sentir en confiance.
Mais comment vous prenez contact avec ces personnes qui sont très souvent défavorisées ?
Elles nous sont envoyées par des structures de l'économie sociale, des gens qui sont dans un parcours d'intégration pour reprendre des bonnes habitudes parce qu'elles sont peut-être un moment éloignées de l'emploi. Et puis, elles sont de très très bonnes professionnelles. Mais il leur manque peut-être un peu ce passage qui fait qu'elles vont basculer de la structure d'insertion vers le monde du travail. Et là, il faut leur redonner, avec nos bénévoles qui sont coachs en image et coachs RH, il faut leur redonner les coachs pour passer des entretiens. Voilà. Ouais. Donc, elles sont surtout envoyées par les structures d'économie sociale. On a 300, 400 partenaires de structures de l'économie qui nous font confiance.
Voilà. Et alors, la cravate solidaire, Pascal, c'est un immense dressing ?
C'est un immense dressing, tout à fait, Philippe. C'est une dizaine de dressings sur toute la France, puisqu'on est le concept de Paris s'est démultiplié en région, à Tours, à Bordeaux, à Metz, à Troyes. Donc effectivement, ce sont des dressings avec des manteaux, des pantalons, des chemises donnés par des sociétés. Donc, lorsqu'on fait des actions de collecte, on en fait régulièrement. On va régulièrement dans les tours de la Défense ou ailleurs chercher des vêtements et ces vêtements sont mis à disposition de nos bénéficiaires. Je suis émerveillé à chaque fois que je vois un bénéficiaire qui me dit ou qui dit à un de nos bénévoles qu'il a retrouvé du travail grâce au conseil et aux vêtements de la cravate. Puisque c'est vraiment un vrai bonheur de savoir qu'on a aidé quelqu'un, et c'est bien dans l'époque actuelle de se dire que il y a de la solidarité. Et surtout aussi, là, on est en train de mettre en place une formation de non-discrimination. On a commencé à travailler là-dessus, et à destination des bénévoles RH, des RH en entreprise, pour les aider à appréhender ce sujet.
Et vous aménagez un nouveau local rue Nationale à Paris?
Tout à fait. On était un peu à l'étroit, parce qu'on a, historiquement, on était rue Nationale dans des locaux qui nous servaient à faire les entretiens et le tri. Et avec le développement de la cravate, ça devient un peu juste. Et par chance, on a trouvé un local qui est juste à côté, qui a à peu près 400 mètres carrés et qui va nous être loué par la régie immobilière de la ville de Paris. Et donc là, on est en train de l'aménager pour pouvoir à la fois dissocier dans l'ancien local les activités de tri et dans ce nouveau local les ateliers coup de pouce. Donc c'est vraiment une étape importante du développement.
Et vous cherchez des truelles et des gros bras ?
On cherche des truelles, des gros bras, on cherche des gens pour nous aider à financer ces travaux, parce que c'est un ancien pressing, donc on a besoin de génie civil, d'aide à ce niveau-là, et donc je fais appel à toutes les sociétés qui pourraient nous aider pour remettre en état ce magnifique local qui va nous permettre de continuer le développement de la cravate.
lacravatesolidaire.org pour l'adresse. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Philippe, d'avoir permis de parler de la cravate, et en fait, nous 10 ans l'année prochaine.
France Inter, carnet de campagne.
Patrick signe son courrier par cuisinier en retraite. Certes, Patrick Geffroy n'est pas en retrait, loin de là, puisqu'il est le nouveau président de cette très sympathique association des bouffons de la cuisine, reconnue d'utilité publique. Cette association avait été créée par Michel Tramin, chef étoilé, en septembre 2017. Le nom de bouffon avait été volontairement choisi parce que le bouffon, je cite comme le rapportent les créateurs, était le seul qui pouvait tout dire au roi en se moquant de lui. Il était aussi un miroir, un révélateur, un lanceur d'alerte. Fin de citation. Les bouffons de la cuisine sont aujourd'hui le miroir d'une société qui connaît des jours ténébreux, comme l'écrit encore Patrick. L'association a entraîné avec elle d'autres chefs, mais aussi des amateurs, des bénévoles, afin de concevoir des déjeuners solidaires, des paniers repas ou des moments de répit autour d'une table à l'intention des personnes seules, sans ressources, des gens de la rue et depuis quelques temps aussi des étudiants. Pour la 5e année, les bouffons préparent leur campagne des tables de Noël. Il s'agit d'un repas festif avec une animation, une décoration digne des tables de fête de fin d'année, préparée par une centaine de chefs cuisiniers, de boulangers, de pâtissiers, d'artisans chocolatiers et des centaines de bénévoles qui assurent l'organisation et l'animation de ces rendez-vous. Alors déjà, des tables sont programmées en Bretagne, dans le Nord, à Paris, à Marseille ou en Nouvelle-Aquitaine. Reste à amplifier le phénomène avec vos dons éventuels, mais surtout votre participation, puisque vous pouvez prendre part à l'édification de ces repas solidaires. L'idée finale est non seulement de se restaurer, mais aussi de faire de nouvelles rencontre et peut-être de participer à l'insertion économique et sociale des personnes qui se retrouvent au bord de la route. Les bouffons de la cuisine.org pour l'adresse internet. Stéphane Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Abeille, au pluriel, Abeille en liberté.
Oui.
C'est un trimestriel, une revue créée par Bernard Bertrand, fondateur des éditions de Terran, en janvier 2019. C'est tout récent, j'ai un numéro sous les yeux d'Abeilles en liberté. Une précision avant de parler des abeilles, on va parler des publications aujourd'hui en kiosque. Et vous vous êtes rendu compte d'où ce point de vue de passer par des abonnements pour obtenir Abeilles en liberté, c'est que les revues en kiosque, pour certaines, c'est-à-dire en moyenne, c'était 3, 4, voire 6 exemplaires sur 10 qui passaient à la poubelle ou au pilon.
Voilà, alors les chiffres pourraient être discutés, mais c'est effectivement de cet ordre-là, et on a fait le choix d'éditer la revue, de l'imprimer au plus près du nombre de nos abonnés, et donc d'éviter ce gâchis.
À qui vous vous adressez, aux apiculteurs amateurs ou pas exclusivement?
Alors il se trouve qu'on a fait une petite enquête récemment et qu'on s'est adressé à nos abonnés pour mieux les connaître. Et effectivement, il se trouve que parmi eux, il y a beaucoup d'apiculteurs amateurs. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien les abeilles sans forcément en faire une activité professionnelle.
Et vous avez un dossier sur le numéro 12 que j'ai sous les yeux, comprendre le syndrome d'effondrement. Que se passe-t-il ?
Moi, je dirais simplement que, effectivement, les abeilles vont mal. Notamment, on constate depuis 25 ans à peu près des disparitions brutales de ruchers entiers. Et nous, on a cherché à faire le point sur ce sujet. Et on a eu la chance d'avoir Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde, et qui nous a éclairé sur la question.
Et alors, on met souvent en cause les pratiques agricoles. Ce ne sont pas les seules.
Et on a raison de le faire.
Oui.
Il y a plusieurs causes, mais la cause principale, et c'est ce qu'on voit dans ce dossier, c'est effectivement la cause dominante qui vient de l'utilisation des pesticides, et notamment de certains pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes.
Mmh. Enfin, la RED va être décidée, c'est en négociation toujours, finalement l'échéance a été repoussée, donc ces néonicotinoïdes sont toujours en vigueur.
En réalité, ils avaient été interdits, ils ont été réautorisés sur les cultures de la betterave, notamment en France, en 2021, et évidemment, tout le milieu militant s'est mobilisé contre ça, mais le gouvernement français a choisi de maintenir pour cette année l'utilisation de ces toxiques dangereux.
Pour comprendre l'étendue du nombre de pollinisateurs, on fait cas de l'abeille, c'est normal avec votre revue, mais les papillons, même les papillons de nuit, participent à la pollinisation?
Effectivement, les abeilles mellifères sont les plus connues, c'est du fait de les avoir domestiquées en partie, mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. Certains papillons, c'est beaucoup moins connu. On joue aussi un rôle de pollinisateur.
Vous avez un dossier central avec de superbes photos, il y a un portfolio sur le monde de la nuit. Et ces papillons, le petit paon de nuit ou le ver de lait, le bombyx de la molène ou encore la citronnelle rouillée, quel drôle de nom, mais elle est magnifique cette citronnelle rouillée.
On a la chance de travailler avec des naturalistes, hein, des photographes qui sont parfois amateurs, parfois professionnels et qui nous offrent des magnifiques photographies. Ça permet de mettre en valeur la beauté de ce monde-là qui est parfois méconnu.
Que faut-il espérer pour l'avenir, Stéphane, qu'il y ait plus d'apiculteurs comme vous amateurs, ou qu'il y ait de plus en plus d'amateurs qui se professionnalisent et donc qui agrandissent le nombre de colonies?
C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je dirais... Pourquoi c'est difficile de répondre à cette question? Parce que on n'a pas forcément la réponse. On est plutôt en train de chercher un ensemble de solutions avec une pluralité de contributeurs qui sont eux-mêmes différents. Et évidemment, j'ai un avis sur cette question. Et je vous dirais que ce qui compte, c'est peut-être de commencer à changer de regard sur ces pollinisateurs, de changer de regard sur l'abeille, et de considérer que peut-être elle n'est pas faite pour être exploitée, ou pas uniquement, et que peut-être peuvent cohabiter des approches très différentes. Concrètement, ça veut dire une approche de l'apiculture qui soit centrée sur l'abeille, centrée sur sa bonne santé, et non plus uniquement sur des besoins de type productiviste où on exploite l'abeille pour les produits de la ruche.
On comprend tout à fait ce point de vue. Je signale que vous êtes aussi coproducteur du film Être avec les abeilles, réalisé par Perrine Bertrand et Yann Grill, qui est actuellement projeté en salle. Le site, c'est abeillesenliberté.fr. Merci Stéphane.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je profite de quelques secondes avant le jeu pour vous donner notre feuille de route à venir après le Val d'Oise. Cette semaine, nous serons la semaine prochaine en Seine-Maritime, ensuite dans l'Oise et puis dans l'Ariège, avant d'aborder d'autres départements qui sont dans les enregistrements prévus cette semaine, Ariège, Haute-Garonne et Tarn. Donc si vous habitez ces départements, n'hésitez pas à nous écrire, à nous parler des innovations, des bonnes solutions du côté de chez vous. Et puis les coups de pouce sont toujours possibles si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous en informer.